Dominique de Villepin dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20.
France Inter présente Françoise Hardy. La pluie sans parapluie. Retrouvez Françoise Hardy et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter. France Inter,
la différence.
15h04 sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Oui, salut Daniel, ce matin c'est le 14 avril et je me souviens. C'est ce matin j'ai mis le drapeau de la République espagnole à mon portail. Parce que c'est le 14 avril 1931 que la République espagnole naquit. J'espère que tu passeras mon message pour que tous les fils et petits-fils de républicains espagnols fassent comme moi et se souviennent. Allez, salut Daniel, et j'espère que nous aurons de nouveau une petite émission sur la République espagnole.
Nantais, écoutez, au début, l'individualisme était une sacrée bonne idée. Libère-toi de des anciennes servitudes, disait-il. Sois toi-même, décide de ton existence. Jusqu'à renier toute convention et de cracher dans la soupe et la gueule à papa. Et à se retrouver tout bête, tout seul, vindicatif, impuissant et déprimé, à combattre ses angoisses ou son mal-être à coups de Prozac, surconsommation et media people. Alors, à quoi ça rime? L'individualisme n'est-il plus qu'un vulgaire outil marketing? Un prétexte à cultiver son égoïsme? Sommes-nous une addition de différences ou juste des consommateurs prêts à l'emploi? Ce sera notre sujet de repère ce vendredi 16 avril, 19h19 au Méliès. Venez tous.
Salut Daniel et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors le repère de Bourg-en-Bresse, qui se réunit habituellement le deuxième jeudi de chaque mois, se tiendra exceptionnellement ce jeudi 15 au bar-resto Le Petit Milieu, rue du Peloux à Bourg-en-Bresse, et c'est à 20h. Nous parlerons d'agriculture, des intervenants de l'appli et d'autres collectifs, notamment TFCO, viendront nous parler de leurs problèmes, qui sont donc aussi les nôtres, puisqu'il s'agit de notre alimentation. Nous aborderons aussi notre déplacement sur le plateau des Glières à la mi-mai. Alors merci aux AMG qui nous rejoindront pour la première fois et qui souhaitent s'informer, débattre, discuter, partager et beaucoup plus si affinité. Allez, ciao.
Bonjour à tous et merci de votre émission. C'est une Pyrénéenne qui vous téléphone. Elle a écouté votre émission sur la Ligue du Nord et la Pandanie, région non définie de la région du Pô. Et je suis très pessimiste parce que c'est l'arrivée des chemises vertes, la lutte contre l'avortement, ne plus divorcer, c'est en même temps le testament biologique que Berlusconi risque de faire voter avec l'accord de l'Église catholique. Alors je me demande où on va. Peut-être de nouveau au Moyen-Âge. Enfin, il faut lutter contre tout ça, parce qu'on perd tout ce qu'il y a d'humain.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Ici Corinne du Repère de Caen, aux News, au 15 Boulevard Leroy. Je vous informe que jeudi 15 avril, donc après-demain, nous aurons donc notre réunion mensuelle avec quelques intervenants et des personnes qui ont donc choisi de parler de Pôle emploi. Donc certains intervenants qui sont actuellement salariés de cette magnifique administration, quelques personnes qui auraient éventuellement besoin de l'écoute et du conseil de leurs interlocuteurs de Pôle emploi. Donc, je pense que le débat sera un petit peu chaud, on va peut-être s'amuser, on va peut-être rire, on va peut-être un peu se moquer, mais je pense qu'on aura toujours nos bons coups de gueule. C'est jeudi 15 avril à 20h30, 15 boulevard Leroy à Caen.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Nous, on continue notre route et nos découvertes au Japon. Et on s'intéresse à ce qui se passe chez Toyota, dans l'empire Toyota, dans la forteresse Toyota. On entend parler de suicide, on entend parler de mort au travail. Alors, on voudrait savoir ce qui se passe quand même. très, 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 très difficile d'obtenir des témoignages sur ce qui se passe dans cette entreprise, sauf un homme que nous avons rencontré qui ose, lui, affronter cette énorme entreprise, cette énorme bête, cet énorme monstre qu'est Toyota, et qui découvre que c'est à travers des petites humiliations que le silence est obtenu dans cette entreprise. C'est particulièrement intéressant et, me semble-t-il, judicieux. Peut-être faut-il faire un lien entre ce que je vous dis là et ce qu'on va réentendre aujourd'hui. C'était un reportage du 28 octobre 2008 et ça s'intitule « C'est de l'enfer des pauvres que naît le paradis des riches ». C'est une phrase de Victor Hugo. Et il s'agit des femmes, des veuves pour la plupart, des mineurs de Lorraine, des gueules jaunes on les appelait, c'est les mineurs des mines de fer de Valleroy en Lorraine. C'était une manif à Nancy, et ces femmes, Nicole, Geneviève, Dina, Angelina, etc., manifestaient pour obtenir une toute petite augmentation sur leur toute petite retraite. On a voulu savoir, 2 ans après, ce qu'elles ont obtenu, ce qu'elles ont pu obtenir. Est-ce que cette démarche de femmes âgées, qui ont des vies de labeur, des hommes qui sont éreintés à travailler, ont pu obtenir? On va le voir, ce qu'elles ont pu obtenir. Mais il semble bien que cette humiliation qui est faite à ces femmes relève du même cynisme et peut-être même du même calcul, rapprochement entre les conditions de travail au Japon et en France pour en finir avec cet exotisme entre Orient et Occident, au moins pour une heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le repère du poulailler à Bègles, en Gironde, place du 14 juillet, n'aura pas lieu le 21 avril parce que ce jour-là, il y a les amis du Diplo au poulailler, mais il a lieu ce soir. Et il porte sur l'identité nationale, en s'appuyant sur le texte d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, « Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi ». Voilà un petit texte qui vaut pas cher, je vous conseille de le lire, de vous l'acheter, 5 euros. Édition Galade, Institut du Tout-Monde. Donc j'ai été clair, c'est ce soir le repère au poulailler, ce soir le 14 avril, à l'heure, j'ai oublié l'heure, 19h, et puis jusqu'à pas d'heure, enfin non, jusqu'à 21h, 22h, ça dépend, on fait traîner quoi, en principe. Allez, la bise à plus.
Jeudi soir, vous pourrez assister à la projection du film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, et ensuite suivi d'un débat en présence de Colin Serrault à Nice, au cinéma Le Rialto, et vendredi soir, 16 avril, à 20h30, au cinéma de Montauroux, le film est derrière le débat avec Colin Serrault. C'est une réalisation de l'ensemble des repères du Sud-Est qui regroupe les repères d'Aix, Marseille, Nice, Tourette, Montauroux, Grasse et Salerne. Ciao viva, portez-vous bien. À jeudi pour Nice, à vendredi pour Montauroux.
Il fait encore nuit dans une gare parisienne et je m'apprête à partir suite à ce message mystérieux que l'on a reçu sur le répondeur de là-bas si je suis. Donc une action qui se prépare et on va essayer justement d'aller rencontrer ces activistes. Je pars vers un rendez-vous dans une gare quelque part en France. Alors s'agit-il d'un black bloc? S'agit-il d'un groupe de non-violents qui décide de passer à l'action? S'agit-il d'un groupe anarcho-syndicaliste? Nous en saurons plus tout à l'heure. Le rendez-vous est prévu à 8h30 dans une gare de France.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao là-bas, si j'y suis. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Victor Hugo.
Je suis arrivé au point de rendez-vous, donc je dois brandir discrètement un panneau marqué là-bas si j'y suis. Donc je vais le brandir. Ah, c'est vous alors?
Eh ben oui, c'est nous.
Oh, ah bah écoutez, c'est formidable. J'avais pris un peu comme convenu au téléphone le panneau là-bas si j'y suis.
Oui, c'est bien. Très bien.
Alors vous êtes? Oui.
Eh bien, moi, je suis Nicole et c'est Christiane.
D'accord. Alors, donc, c'est vous qui avez laissé ce message mystérieux sur le répondeur de la base.
Oui, explicite.
Pour une action aujourd'hui même.
Témoignage de femmes de mineurs de fer de Valleroy en Meurthe-et-Moselle. C'est le titre du livre que nous avons écrit. Je vous l'ai envoyé au mois d'août. L'avez-vous reçu? Nous manifestons à Nancy pour le pouvoir d'achat et avoir les moyens de vivre sa retraite. Certaines grand-mères ont du mal à se déplacer, viennent avec leurs cannes et leurs chaises, mais restent debout, malgré tout, fières et dignes. On aimerait rencontrer un journaliste de là-bas qui est ici.
La Lorraine craque. Dans les mines de fer et de charbon, dans les usines sidérurgiques, l'agitation dure depuis 3 mois.
Et voilà, en route, vous avez tout compris sur ce mystérieux, pas du tout mystérieux, rendez-vous avec ces dames, dont une auditrice parmi elles a laissé un message sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Les femmes de mineurs, de fer, de Valeroy, ces mines ont fermé il y a de bien belles lurettes, mais elles sont toujours là, et un peu qu'elles sont là, et un peu qu'elles se battent, et un peu qu'elles ont écrit un bouquin passionnant, mais absolument passionnant, un document sur ce que fut la vie dans ces mines de Valeroy, de cette vallée de la Fensch, bien connue de tous ceux qui s'intéressent à la question ouvrière. Et à la lutte des classes, parce que pour ces dames, pour Gilbert, pour Dina, pour Hélène, pour Zora, pour Geneviève, pour Anna, pour Angelina, pour Nicole, le combat continue. Elles sont presque toutes veuves. Leur mari est parti. C'était les gueules jaunes, ceux-là. C'était pas les gueules noires, les gueules jaunes, c'est-à-dire ceux du fer, ceux des mines de fer. Aujourd'hui, elles continuent de se battre pour des choses évidentes, les retraites, le niveau de leur retraite. La plupart de ces femmes sont au-dessous du seuil de pauvreté, vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Faut-il comparer ces revenus avec tout ce à quoi nous assistons ébahis actuellement sur les capacités incroyables, la vitesse avec laquelle nos élus répondent à leurs amis banquiers et financiers et les moyens dont ils disposent, alors que ces femmes ont manifesté. Pourquoi ? Pour demander 200 euros pour tous les retraités, 200 euros de plus chaque mois, et pour un minimum de retraite au niveau du SMIG pour tous. Une revendication qui semble minimum. Mais ce qui est intéressant, à travers leur voix, à travers leur présence, à travers ce combat qu'elles continuent, c'est évidemment l'histoire de ces luttes, notre histoire à tous, dont elles portent le témoignage. C'est une histoire française. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Qu'on se dresse tous sur nos 1000 pattes arrière et qu'on aille de l'avant. On fera pas semblant. Attends voir un peu pour voir qu'on se lève de nos chaises trop étroites pour te montrer nos vies qui boitent, te montrer nos rêves qui crèvent. Chaos social, prends bien garde aux fringales de tous ceux qui ont mal partout, l'humeur noire en pagaille. Chaos social, ok pour la bagarre, c'est quand que ça démarre, on tourne en rond dans notre bocal. Attends voir qu'on se déplie, qu'on déploie nos ailes trop petites et qu'on vole dans les plumes qui foulent sur ton bitume. Ouais, tu vas voir ce que tu vas voir, nos pavés dans ta marée noire. La plage est aussi crade que tes discours rasoirs. Chaos social, prends bien garde aux fringales de tous ceux qui ont mal partout, l'humeur noire en pagaille. Chaos social, ok pour la bagarre, c'est quand que ça démarre, on tourne en rond dans notre bocal. On tourne en rond dans notre bocal.
Je vais aller faire connaissance avec un petit groupe.
Alors c'est un groupe là qui se réunit donc pour préparer une manifestation.
La manifestation elle est prête, hein, les bus sont commandés et tout.
On va y aller à la manifestation, hein. C'est pas la première qu'on fait.
Alors ici, on est à Metz.
À Metz. Moi, c'est la première fois que je roule en ville, quand même, que je m'y mette. Hein.
Bah oui, oui, oui. Hein? Les luttes sont pas terminées, hein.
Bah c'est ça.
Bien au contraire.
C'est ça. Allez, hop, tu vas à droite. Alors, tu m'as dit de tourner à droite. Hop. Vous avez vu comme c'est mal foutu, là, le mur des Moselles. Le haut, il est tout étroit, puis le bas, c'est... C'est-à-dire qu'au nord de la Meurthe-et-Moselle, il y avait les mines et les usines. Dans le sud, il n'y avait pas grand-chose. C'est tout droit, Christiane ?
Il y a des flèches, on vous indique tout droit.
Alors, la Meurthe-et-Moselle, en fait, le nord de la Meurthe-et-Moselle a nourri le sud, a nourri Nancy. Parce qu'à Nancy, il n'y avait pas de richesse, quoi. Tandis que là-haut, il y avait les mines et les usines. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on va manifester à Nancy, mais des fois, on va à Metz quand même, c'est plus facile pour nous. On est venu en 95 avec les cheminots, il y avait des sacrés manifs ici. Hein. On avait tout envahi la gare.
Quand vous venez, en fait, c'est pour manifester, quoi.
Oui, non, non. Allez, Nicole, ne lui discutez pas, on va rester là. Tout droit.
Bon, je suis bien là, hein,
t'es bien. Vous voyez, c'est Chazelle, c'est là où... dans la maison de Robert Schuman.
Ah, le père fondateur de l'Europe. Alors vous avez bien manifesté contre l'Europe. Hein.
Ah ben oui.
Contre le traité européen, quoi.
Oui, c'est ça, c'est pas contre
Maastricht. Vous êtes allé à la Castagne, là aussi.
Oui,
là.
Oui.
Et il est d'ici, le Schuman en question, là.
Eh ben oui. Voilà. Alors, tu me dis où, là, maintenant?
Oui, la prochaine sortie, c'est...
La vallée de la Moselle, donc on va...
La vallée de l'Orne.
La vallée de
l'Orne.
Parce
que nous, on a une rivière qui
c'est là,
l'Orne.
La Moselle, on va passer
la Moselle,
dessus.
On va passer dessus. On va aller dans la vallée de l'Orne. Oui.
Ben, c'est le fief des Devindel. Hein.
Ah.
Les usines, les mines.
Dont le digne héritier est le baron Ernest Antoine Chélier. Voilà.
Christiane, elle a travaillé chez les Devindel.
Dans le château.
Dans le château.
Parce qu'on avait des familles qui étaient dans le château.
Mais il est mis en ruine.
Oui, je prends toujours bien Verdun. Hein.
C'est orange là, ouais, on s'arrête. Voilà.
Alors on avait une famille, ils s'appelaient les... Oh, on retrouvera tout ça. Mm-hmm. Portugais de... Oui, ils étaient noirs, bien noirs. Et lui, il travaillait à l'usine de Jeuf, ce qui était aussi de Vindel. Elle était chargée d'ouvrir et de fermer le portail quand madame passait.
Ah bah oui.
Alors le majordome le téléphonait, elle dit, Maria, madame va passer, rentrez les enfants. Parce qu'elle avait des gouttes. Quand on parle, tu vois, c'est ça.
À la baronne, elle voulait pas voir les enfants.
Elle voulait pas voir les enfants sur sa route.
Elle voulait pas voir les petits noirs.
Elle voulait pas, je sais pas pourquoi. On discutait quand même pas mal avec la femme. Elle me disait, moi j'en ai marre chaque fois quand elle rentre, madame. Il faut que j'aille ouvrir la porte, on me téléphone, le majordome. Ah, j'ai dit, pourquoi vous faites pas payer? Alors, si que j'ouvre la porte, eh bien il faut qu'il me paye. Le majordome, il téléphone, dit, madame Maria, vous ouvrez la porte, madame, elle va sortir. Alors, c'est son mari qui a décroché, et puis il a dit, bon, ma femme, elle veut plus ouvrir la porte, faut la payer. Si elle ne la paye pas, elle ne voit plus. Et puis moi, je veux qu'on me fasse, quand je viens travailler chez vous, je veux qu'on me fasse une fiche de paye, et je veux être déclaré. Alors, il lui a dit, vous ne pourrez plus travailler à la maison, alors on ne peut plus vous garder dans ces conditions.
Ça,
alors,
c'était les Devindel, ça.
Ah oui, Devindel, la mère Devindel, là.
Il n'y a pas longtemps, ça, vous savez.
Non, c'est toute une mafia, les Devindel, hein.
Là. C'était les maîtres des forges.
Oui.
Ça n'a jamais été bombardé pendant la guerre, hein, les usines. Ah non.
Mais non, parce qu'ils fournissaient le métal. Hein, ah, pour faire les bombes.
Hein, c'était la richesse. Hein,
ils fournissaient qui?
Les Allemands.
Les Devindel, ils fournissaient les Allemands. Hein.
Eh oui, Devindel fournissait les Allemands. Vieille histoire, vieux débat, vieux soupçon sur la famille Vindel qui fut soupçonnée de double jeu et de trahison, accusée plus tard de liens troubles avec l'Allemagne nazie, alors que François Devindel prétendait, affirmait que Munich était, je cite, une défaite formidable, et il n'était pas un partisan du plutôt Hitler que Blum. Vous connaissez, vous vous souvenez de cette formule? Plutôt Hitler que le Front Populaire. Il disait, il y a actuellement un danger bolchevique et un danger allemand. L'un à l'intérieur, le bolchevique, et l'allemand à l'extérieur. Mais pour moi, le second est plus grand que le premier, et je désapprouve nettement ceux qui règlent leur attitude sur la conception inverse. Et bien, en dépit de cette déclaration, La famille de Vendel a continué d'incarner le mur de l'argent et les 200 familles. Un mythe, nous dit Wikipédia. Wikipédia. Un mythe toujours entretenu aujourd'hui par qui donc ? Par le monde diplomatique et par l'humanité. Bah voilà. Voyez comment ça se passe ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est le mur de l'argent. Wall Street. Ah. 20 ans après la chute du mur, la chute de l'autre mur, certains en rêvent. J'en suis certain, je le sens, mais nous n'en sommes pas encore là. Il ne fait que tituber, ce grand dada de capitalisme qui, là, se monte aujourd'hui dans toute sa sauvagerie, je dirais originelle, avec ces femmes, ces veuves de mineurs, qui ont travaillé, je fais volontairement l'amalgame entre elles et eux, entre leurs hommes, tous disparus, elles sont toutes veuves, et elles qui continuent le combat, qui ont travaillé à enrichir évidemment le pays, à enrichir les familles Vendel, mais aussi à enrichir le pays, c'est-à-dire nous tous, et à lutter pour ce qu'on appelle les acquis sociaux, pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour tout ce qu'on appelle le social. Des choses qui sont, vous le savez, assez balançables, vous le savez, et vous le voyez, vous le ressentez, chaque jour un peu plus mises en cause et compromises depuis pas mal d'années. Je dis des banalités, mais c'est toujours quelque chose que de dire des banalités, et puis d'aller les voir, de les sentir, mais aussi que les luttes soient gaies et porteuses de suite.
Alors vous êtes un comité de femmes ?
Oui.
De mineurs.
De mineurs. On a un comité de femmes de mineurs. Mais alors maintenant, comme on s'est aperçu que les femmes de sidérurgie, c'est tout ça, ont les mêmes difficultés, alors on élargit. Nous, on ne veut pas vivre de charité. C'est pour ça qu'on manifeste. Et on ne veut pas que nos enfants payent pour nous s'il nous arrive quelque chose quand on est vieux. C'est pour ça qu'on est toujours révolutionnaire, parce qu'on ne voudrait pas quand même être à la charge de la société alors qu'on a tant travaillé, hein. Que ce soit les mères de famille, que ce soit les femmes qui ont travaillé à côté. C'est un dû, la santé et la retraite. C'est un dû. Vous vous rendez compte que les enfants payent pour les anciens 2000 euros par mois pour mettre une grand-mère à l'hôpital. C'est les enfants qui payent ou les petits-enfants. Mais enfin, où c'est qu'on va là? Et puis alors, il va falloir aller au Resto du Cœur ou je ne sais pas où pour chercher à manger. Mais enfin... On a travaillé pour vivre quand même. C'est qu'on en est. On en revient à la charité, comme Saint-Vincent de Paul. Non, non, non. Non, non, ça non. Hein. On veut rester debout. Hein. C'est ça le but de notre lutte. Puis enfin, vous verrez que toutes les femmes vont parler pareil. Hein.
Alors vous êtes révoltée.
Ah oui.
Ça, on le comprend. Et mais vous vous considérez même comme un groupe révolutionnaire.
Ah ben oui. Moi, je pense que oui. Un groupe de résistance, bien sûr, dans la tête, hein, parce que le corps, il suit plus, bien souvent. Hein, mais on veut parler. De toute façon, il nous reste que la gueule. Hein, alors on parle.
Mais vous, il faut pas se tromper, c'est pas les. Vous n'êtes pas femme des gueules noires, vous êtes les femmes des gueules jaunes.
Des gueules jaunes, oui, oui. On a aussi accueilli des gueules noires dans notre comité, puis il y a aussi les potasses. Parce qu'on a quand même un régime spécial, hein, les mineurs de fer. C'est quand même une médecine qui était complètement gratuite. Et tout ça, c'est remis en cause.
Ça, c'est des acquis
Oui, c'est des acquis des mineurs, ça.
Acquis de haute lutte.
Oui, de haute lutte. Oh, oui, parce que c'est pas venu tout seul. Hein.
C'est tout un secteur qui s'est battu, c'est celui-là.
Oui.
Hein.
Mais même pendant que les mineurs étaient là, à la fermeture de la mine de Trieux et tout ça, il y avait le comité des femmes. Hein. Et on a quand même bien soutenu les maris, parce qu'il fallait accepter qu'ils fassent grève. Il n'y avait pas de paye hein, pendant la grève. Il fallait que les femmes soient d'accord, hein.
Et vous aviez bien compris que la lutte des classes, c'est pas une soirée de gala, quoi.
Oh ah ben, la lutte des classes, c'est ce que je disais à la Christiane en venant, on n'en parle plus. L'exploitation de l'homme par l'homme, on n'en parle plus. Mais enfin, c'est toujours pareil quand même. Ceux qui vivent des actions, là, qui vont tous les mois toucher leurs actions, mais c'est la sueur des travailleurs, ça, quand même.
Voilà, il y a un beau panneau, lapin à la main, c'est super. Oui, oui. Hein, on dirait une fresque mexicaine. Des muralistes mexicains.
C'est un gars qui a fait ça d'ici.
Donc ici, ça y est, on est à Valroy.
Voilà, on va être arrivé chez nous. Alors ça, c'était les logements des chefs. Hein,
des porions.
Des porions.
Des porions, hein, c'était les chefs.
Ah, c'était ceux-là. Et nous, les ouvriers, on était là-dedans.
Et donc, vous y êtes encore?
Et on y est encore, oh, ben oui, bien sûr.
Et les maisons vous appartiennent?
Oui, on les a achetés parce que il y avait des promoteurs qui voulaient acheter des rues complètes. Et puis nous les louer après. Puis après, ah bah bon, ben, y a eu des comités d'entreprise qui ont décidé d'acheter les. Qu'on achète les maisons parce qu'autrement on aurait été le con. Hein. Allez, on y va. Hop.
Alors c'est le numéro 12, c'est vous, hein.
Oui.
Madame Strapazon.
Voilà.
Alors c'est de quelle origine Strapazon?
Italien. Voilà, notre petite maison. Voilà, c'est que j'habite. Pour aller à la cave, voilà. Et pour aller au grenier, voilà là-haut. Hein, ils se cassaient pas la tête. Hein.
Donc ils ont fait une trappe pour
une
descendre
trappe pour
à, la
aller à la cave. Et puis une trappe pour monter au grenier. Alors, c'est tout à plein pied finalement, on n'est pas si mal que ça.
Ben oui, c'est bien.
On a le chat qui dort là. Alors, vous voyez, c'était deux pièces. Quand on s'est marié, on a eu deux pièces. Hein, ça finissait là.
Alors, votre mari, on le voit ici, il y a une photo.
Oui, c'est lui, oui. Il est mort à 61 ans.
Il est mort à 61 ans?
Voilà. Eh oui. Il a eu un cancer des reins.
Quoi, une maladie liée au travail?
Oh, je pense que oui, mais ça n'a pas été reconnu, hein. Et puis après, ben, il n'arrivait plus à respirer, il a fallu l'oxygène, il a fallu tout. Puis bon, ben, il y avait le lit médicalisé là-bas, il a fallu l'accompagner.
C'était quand?
C'était en 2001. Et t'es voici. C'est comme ça. On va boire un café. Des fleurs qui sont de la sueur. C'est le jour et la nuit. Des cœurs qui battent le malheur. C'est le fou et la suie. Pour remuer ciel et terre, trouver le courage de pomper, puiser, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Trouver le courage de pomper, puiser, porter, nettoyer, astiquer, récurer, enfin souffler. Femme de mineur, femme de labeur, sort en cadeau de leur cœur. Femme de mineur, femme de mineur, femme de seigneur, sort en cadeau de leur C'était son père qui était venu travailler ici. Hein. Et moi, j'ai rencontré mon mari quand il avait 18 ans. Ben, au bal. Dans le temps, il y avait le bal, il y avait toutes sortes de fêtes, hein, la salle des fêtes, tout ça. Bon, ben, puis c'est tout. Il a fait la guerre d'Algérie. On a attendu la fin de la guerre d'Algérie et on s'est mariés après.
Et quand vous l'avez rencontré, il travaillait déjà à la mine?
Oui, oui, oui. D'accord. Ils ont commencé à 14 ans la mine. Mmh. Son père était venu d'Italie vers 1920. Mmh. Voilà, il s'est marié ici, puis il a eu des enfants, puis voilà, moi j'ai rencontré un de ses enfants.
Vous avez combien de frères et sœurs?
8. Oui, voilà. Et j'ai eu 2 enfants. Mon fils est né en 62. La fille est née en 70.
Alors vous, vous êtes né dans la région, vous êtes...
Oui, moi je suis né à Valleroy, oui. Mais pas, c'était d'un milieu agricole, nous, c'était pas... ouvriers comme maintenant. Mais dès qu'on s'est mariés, on a quand même vu ce qu'il fallait faire. On a soutenu les grèves, on a fait des comités de femmes de mineurs. Quand ça s'envenimait, on a dit, bon, ben, on va marcher sur Metz. Marche sur Paris, c'était en voiture. Mais la marche sur Metz, on a fait les 25 km à pied. Hein. Hein, vous rendez compte? Oui, on a marché.
Cette mine de Trieux est fermée depuis 14 ans. 600 mineurs y travaillaient, tous habitants de la commune. En 1963, l'arrivée du minerai étranger provoquait la mévente du minerai lorrain. Cette mine ne trouvait plus d'acheteurs belges et luxembourgeois. Pour la commune, c'était un coup dur, la mine était la seule industrie, sa seule richesse. C'est pourquoi Trieux a connu en 1963 une des grèves les plus longues de l'histoire du bassin ferrifère. La commune était en état de choc. 79 jours de grève au fond de la mine. Une grève à laquelle ont participé activement les femmes, car cette fermeture les choquait.
Bon ben la grève de Trieux, ils sont restés plus d'un mois au fond, hein, les mineurs, occupés le fond. Et là, dans tous les puits de mine, chaque mineur qui travaillait donnait une journée de travail pour faire le salaire des mineurs de Trieux. Il y avait une sacrée solidarité, hein. Plus on quêtait pour leur faire à manger, hein. Alors, à Valleroy, il y a un boucher qui n'a pas voulu donner parce qu'il a 10 ans qu'à travailler, tout ça. Eh ben, plus personne n'allait chez lui. Il a été obligé de partir de Valleroy. Il y avait une solidarité incroyable. On n'acceptait pas une politique pareille, quoi. De faire venir le minerai de Mauritanie, tout un trafic de... qu'on ne comprenait pas.
Et donc, en 67, ici, la mine ferme, hein, à Valleroy. Et votre mari, il fait quoi, alors ?
Alors, ben, on a appelé ça les 7 années de vache maigre. Hein. Et puis, finalement, il y a une mine qui l'a rembauché à Droit-Aumont et il a fini sa carrière, là, à Droit-Aumont. Mmh. Puis après, il a eu un accident de mine, il a reçu un bloc sur le dos et puis après, ben, il s'est plus remis, quoi.
De cet accident ?
Ah ben oui, bien sûr, c'était des suites de l'accident, hein. Mais seulement, c'est pas reconnu, hein.
L'accident non plus, l'accident de travail.
L'accident, il a été reconnu le temps qu'il était vivant. Mais du jour où il est mort, la rente accident, elle est supprimée. Le jour, hein, ils m'ont réclamé, parce que c'était payé un peu d'avance, le jour, il a fallu rembourser tout. Alors moi, j'ai la retraite, la demi-retraite, qui s'élève à 530 €, plus, heureusement, que j'ai travaillé. Mmh. Autrement, j'aurais que 500 €.
Là, vous avez fait quoi, vous ?
Travailleuse familiale. Quand j'ai vu que les mines fermées et tout ça, j'ai dit, il faut une paye qui rentre. Hein. Alors, bon, ben, je suis partie à l'école pour passer l'examen, parce qu'il fallait un examen. Je suis partie à l'école à Lyon en mai 68. Ben oui, alors on allait voir les,
ça tombait bien, quoi,
les ouais. universités, tout ça. On n'avait jamais rien vu de notre vie, hein. Moi, je n'ai pas fait d'études. Alors, on est rentré dans tout était ouvert à Lyon. On est passé avec mes copines, on est rentré là-dedans. Il y avait un grand espoir pour nous, hein. Pour les ouvriers, quoi. Puis finalement, on est retombé à zéro, quoi. Puis voilà, on en est resté à la même place. Hein. C'était le capital carpé le dessus, puis vas-y, quoi. Enfin, ça a donné une sacrée grande frousse au capitalisme, ça, mai 68. Hein. Ils ont une frousse bleue que ça recommence. À l'époque, on était jeunes, maintenant on est vieilles, quoi. On était grand-mères. Mais enfin, on pensait pas quand même arriver à, après 40 ans, à encore... être dans la misère comme ça, parce qu'il y a des grands-mères qui sont dans la misère. Puis ce qui est choquant, quand même, ils trouvent des milliards et des milliards pour flouer les banques. Hein, alors c'est nationaliser enfin, les pertes et puis privatiser les profits.
1700 milliards, c'est ça, pour renflouer les banques. Et vous, votre retraite, pendant ce temps, il faut aller manifester à Nancy pour
ben
qu'elle
oui,
soit réajustée.
Ben,
quoi,
ben oui, et puis le trou de la sécu. Alors on nous fait payer les médicaments, mais enfin, où c'est qu'on va ? Venez, Dina !
C'est Dina qui arrive.
Vous venez ?
Ben voilà, Dina arrive. Dina, c'est l'une des femmes. L'une de ces femmes qui sont auteurs, voilà, on va l'écrire comme ça, d'un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle « Témoignages de femmes de mineurs de fer » de Valleroy, donc c'est leur patelin, cette région de mine, qui est fermée depuis longtemps, et elles sont formidables, et elles se sont prises par la main, et elles ont raconté en texte, en mémoire, en images, en photo, ce que fut la vie dans cette mine, et ce que fut leur vie à elles, de femmes de mineurs. 79 jours quand les bons hommes sont en bas, eh ben, il faut assurer la vie, le reste de la vie, et puis il faut assurer le fric, parce que évidemment, toutes ces luttes, c'était, il y avait pas de paye, et il fallait tenir le coup, c'était des solidarités formidables. Ces récits sont précieux, parce que c'est notre vraie histoire, c'est l'histoire, il devrait y avoir, je sais pas, moi, 2 heures d'histoire sociale, comme ça, par jour sur une radio comme la nôtre pour que nous sachions qui nous sommes. La vraie mémoire, c'est ça, le devoir de mémoire. S'il y en a un, c'est celui-là. Nicole emploie le mot capitalisme. Tout le monde l'emploie en ce moment. C'est un mot qui est revenu, mais elle, elle n'a jamais cessé. Le mot lutte de classe, pour elle, ça n'a jamais cessé non plus. On voit bien ce que c'est qu'une lutte. À ce propos, c'est intéressant de repenser, évidemment, en ce moment, au bouclier fiscal, au paquet fiscal. On essaye de passer ça sous le tapis. Mais enfin, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, au moment où a été adoptée la fameuse loi TEPA, vous vous souvenez de cette loi TEPA? Eh bien, ces déclarations de la ministre, une femme aussi, de l'économie, qui a dit: on entend, s'il s'agit de Christine Lagarde, hein, si vous aviez pas compris, et elle a dit à ce moment-là, on entend souvent dire que cette mesure, le bouclier fiscal, ne concernerait que la partie la plus riche de la population. Mais n'est-ce pas celle qui fait tourner l'économie? Fin de citation, Christine Lagarde. Voilà pourquoi il faut aider les riches, parce que c'est eux qui font tourner l'économie. Et cette phrase donne une idée de la place qu'ont les autres, les moyens et les pauvres, dans l'économie, c'est-à-dire bah, qu'ils ne servent pas à grand-chose, ou bien qu'ils sont bah, des assistés. Voilà, nous sommes avec des assistés, des femmes assistées, qui ont 530 euros de retraite par mois, et vous savez quoi? Elles veulent plus.
J'amène le café, Nicole?
Non, ah ben, comme vous voulez.
Bien, j'ai le café, viens.
Bon,
ben, allez. Voilà ce
qu'il
y a dit. J'ai pris
le béret, il tombe, hein.
J'ai pris mon béret parce
il
que...
Il portait le béret.
On va mettre un rouge pour la manif, hein.
Un béret rouge, oui. Avec des journaux dedans, avec le Républicain dedans, pour les coups de matraque.
Ah non, non, ben, on ne prend pas le Républicain, ah, on prend l'Huma.
Ah ouais, donc on va plier l'Huma dans le, au fond du béret, c'est... C'est la petite cachette pour les clés.
Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de rôle.
Il n'y a que les patrons qui volent ici.
Oui.
Entrez. Oh, tout à l'heure.
Bonjour.
Voilà, c'est Monsieur Antoine, hein, qu'on a trouvé à Metz. Monsieur
Antoine.
Bon, midi, vous mangez mais... ici, hein. Les sorties du train avec le bazar là, mais
qu'est-ce que c'est? Ah ben là, il n'y avait pas besoin de pancarte. Hein.
Alors, une, ouais. Elle est aveugle.
Alors, pardon.
Hein, une, elle est aveugle.
Et sourde.
Donc, elle est sourde. Un peu sourde. Sa sœur, elle est sourde. Après, il y a une autre dame, elle est opérée à le cœur.
Il y a une pille, quoi, là.
Oui, mais là, non.
Elle a une pille, c'est ça.
Ouais. Ah.
Alors là, c'est le noyau dur, du comité de femmes, disons du black bloc de femmes, de femmes de mineurs. Et vous êtes à toutes les manifs, en tête de...
Quand on peut, quand on arrive. Quand on arrive, y aller.
Pas trop maintenant dans les gens.
Parce que là, on est... Bon, toi, quel âge fais-tu?
78 18 ans dans ma tête.
Moi aussi.
72.
La Nicole aussi.
Oui, hein, oh. Oui.
Toi, elle a moins 71, là, bientôt. Ouais,
elle a 77.
17, oui. Et moi, j'en ai 80.
Ben oui. Dis donc. Oui.
Alors, hein. Et la Gilberte, elle avait 83.
Ouais.
Alors, on était toutes des vieilles, des vieux machins.
Ma soeur, 76.
Oui, oui. Hein? Mais quand vous déboulez dans les manifs.
On est encore en forme. Je vais servir un jeune homme.
Oui.
C'est l'invité quand même. Hein.
Jeune homme, c'est gentil.
Oui, oh. À côté de l'eau,
hein, il sera avec les vieux mineurs.
Mais il y aura des hommes un peu dans le quart ou je vais être le seul?
Non, des bonhommes.
Il y aura des bonhommes. Ah, dommage. Racontez-moi un peu les plus beaux souvenirs de lutte que vous avez. Quoi. Pour donner comme ça envie aux jeunes, comme moi, de continuer à lutter, quoi.
Vous, ça.
On a occupé pendant un jour, et quand le patron est venu voir ce qui se passait, on a chanté l'Internationale. C'était les premiers, les bureaux de la mine. La première fois que ça se pesait, on a été les premiers à Valleroy à couper l'eau.
Oui.
Alors que l'eau, elle alimentait jusqu'à Nancy.
Mais la fois que le directeur est venu voir les femmes, là, parce que il est descendu, je me souviens, avec son beau costume bleu marine, là, pour nous voir. Moi, ça m'a foutu. Pour nous voir, c'était pas pour discuter avec nous,
pour nous voir. C'est pour ça que j'étais en colère. C'est ça qu'on a chanté l'international. Parce que j'ai dit, non, mais c'est pas possible, ça. Ils descendent pour nous voir comme si on était des bêtes de quelque chose à voir. Hein?
Bah oui,
le salaud. Je le vois encore descendre des escaliers comme ça.
Il était dans le bureau.
Nous, on était dans le hall et il y avait un grand escalier.
C'était vraiment la lutte de classe, là. Hein. Vraiment les deux classes qui s'affrontaient, là. Hein. Eh ben, on a chanté. On a bien fait.
C'était hier, le meeting des mineurs, rassemblement de tous ces braves gens. Ils sont venus de toute la Lorraine pour protester contre les licenciements. Ils sont venus de toute la Lorraine pour protester contre les licenciements. Le défilé d'une ampleur remarquable, tous rassemblés devant le monument. On y brûla les lettres de menace que les patrons nous avaient envoyées. On y brûla les lettres de menace que les patrons nous avaient envoyées. Pour un mineur, c'est toujours toi qui trinque, c'est toi qu'on brime, qu'on presse comme un citron. Mais aujourd'hui, il faut que cela cesse, voilà pourquoi nous occupons le front. Mais aujourd'hui, il faut que cela cesse, voilà pourquoi nous occupons le front.
Les problèmes sociaux demeurent préoccupants en France. Transportés par 360 véhicules divers, 2000 ouvriers des mines de fer de Lorraine ont participé à la marche sur Paris. Cette démonstration destinée à alerter l'opinion publique aura constitué la manifestation la plus spectaculaire de la grève des mineurs qui était entrée dans sa troisième semaine. Pour 24 heures, les cheminots à leur tour s'engageaient dans la grève et des menaces d'arrêt de travail semblaient peser sur tout le secteur nationalisé. Au 17e jour de leur mouvement, alors que l'on croyait une issue proche, les mineurs des charbonnages se sont réunis à Lens au nombre de 40 000 au cours d'un grand meeting. Cependant, des consultations entreprises à Paris auprès des responsables syndicaux par le comité des sages laissaient la porte ouverte au dialogue et, du même coup, à la possibilité d'un règlement de la crise.
Je suis Dina Arisi.
Vous êtes venu habiter ici dans la cité
En 60. J'ai toujours habité Valleroy, moi. Non, non,
ouais. 80 ans, je suis ici.
Une femme qui a...
Veuve de mineur.
Et qui a suivi son mari plusieurs fois dans ses déplacements, dans ses grèves, dans ses machins. Mais maintenant, il n'est plus là. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
On n'a pas une adhésion, nous. Disons qu'on est les femmes de...
Mais maintenant,
oui,
on a la carte.
Oui, t'as la carte.
Mais quand il y avait nos maris, c'était les maris qui avaient la carte. Ils avaient la carte de CGT. On les appelait les communistes. Mmh. Et nous, on a pris le flambeau après. Parce qu'on est veufs et on veut quand même défendre le buffetec. Hein.
Et puis les retraites sont quittes.
Et...
Parce que, hein, c'est 52 ou 54% que vous avez
54%.
54. Mmh.
Les mineurs, ben, c'est en voie de...
Vous allez voir quand on va monter dans le car. Un monsieur, il a dit une fois, oh, ben il y a... que des femmes à Valleroy. Et on s'arrête juste devant le cimetière, le car. Et moi, j'ai fait, mais oui, hein, qu'est-ce que vous voulez, ils sont tous là, hein, les autres,
oui.
Les pauvres bonhommes.
Ils sont tous allongés là. Hein.
Ils sont tous morts jeunes. Hein.
Votre mari, il est mort à quel âge?
Lui, il avait 60 ans.
Bah oui, c'est jeune.
C'est jeune, mais il y en a eu des plus jeunes qui sont morts.
Ah oui, mon beau-frère, 50 ans, Louis.
Ben oui, hein.
Il a eu de silicose, lui. Hein.
Ouais,
ouais. Il a ses poumons qui ont explosé, enfin son cœur qui a explosé, et il n'arrivait pas à respirer.
Et ça a été reconnu comme maladie professionnelle.
Oui, ouais, maladie professionnelle.
Oh, ils ont eu du mal à les donner, hein, les maladies professionnelles.
J'ai eu un autre beau-frère. Quand elle a reçu les papiers au retour, il n'était pas mort de silicose. Il n'avait rien au poumon, il n'avait rien au cœur, voilà. Il n'avait rien du tout. Quand le professeur a vu ça, il a dit quoi? C'est pas possible. Alors donc, il a écrit au collège des trois médecins à Nancy qui décident de tout. Et c'est revenu que c'était d'accord qu'il était mort des suites de silicose. Comme quoi, bah, il noie le poisson pour pas donner les sous. Hein.
Oui. Et sans acheter par les patrons.
Alors, le régime minier, il a été acquis au bout
en
de
45.
Au bout de je sais pas combien de luttes.
Quand on a fait la grève en 47.
On était soignés gratuitement. On avait le dispensaire à la mine. On était soignés gratuitement. Mmh. Les médicaments, on les payait pas. Et malgré la fermeture donc de Valleroy qui a eu lieu il y a 40 ans en arrière. Ceux qui dépendent des mines, ils bénéficient toujours du régime minier.
Ouais.
Mais pour combien de temps encore, on ne sait pas.
Oui, c'est des régimes spéciaux.
C'est des régimes spéciaux.
Donc, ils sont remis en cause.
Ah, oui, ils sont remis en cause.
C'est tout ça, les régimes spéciaux. Tout, on en fait partie.
Sauf les parlementaires.
Tout ce qu'on a eu gagné après la guerre en 45.
Voilà, oui. 50 ans.
Hein, c'était Ambroise Croizat qui a quand même monté la sécurité sociale.
C'est lui, oui, Ambroise
Croizat. Ministre communiste, hein, faut pas oublier ça. Les trois volets, caisse d'allocation, caisse vieillesse et sécurité sociale, caisse maladie. Ça s'est fait en 45. Il nous enlève tout.
Bon, allez, ciao,
tour. Bon, Angéline, à tout à l'heure, elle nous raconte les filles en rentrant.
Et vous nous racontez tout.
Les exploits.
Ouais. S'ils ont été gentils, s'ils ont été méchantes, qu'est-ce qu'elles s'en foutent.
Bon, on va aller à la castagne. Hein. Alors là, c'est le quartier, c'est les cités, quoi, ça s'appelle.
Oui, les cités. Alors, ça s'appelait la rue Émile Thomas. Mais ils avaient mis tous les Algériens, là. Alors, nous, les syndicalistes, on était avec les Algériens. Alors, à un moment donné, on mettait rue d'Alger, et ben, ça arrivait quand même. Toutes les lettres et tout. Oh, c'était marrant.
Alors, il y a quoi? Il y a une dizaine de rues?
Il y avait 800, quand on donnait les tracts, nous, il y avait 800 tracts pour Valleroy. Il y avait les cités, puis l'ancien Valleroy, c'était un village, hein, autour de l'église, quoi, là-haut. Alors, les villageois, ils ont jamais accepté toute cette émigration-là. C'était toujours les cités et le village. Et c'est encore comme ça maintenant, hein. Alors là, c'était la salle des fêtes, et puis bon, bah, c'était le paternalisme, hein. C'était quand même le directeur de la mine qui dirigeait tout. Hein.
Alors, c'est ici qu'il faisait le bal?
C'était là.
Alors, c'est ici que vous avez reconnu votre mari?
Ah oui, oui, c'était au bal, la salle des fêtes. C'était bien.
Toutes ces maisons ont été revendues petit à petit?
Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des mineurs qui... Ceux qui meurent, bon, ben, les enfants vendent la maison. Alors la mine, c'était en face, là. Pour ça qu'il n'y a pas trop d'affaissement minier, parce que... au puits de mine, il n'y avait pas tellement d'extraction, quoi. Ça allait en dessous des bois partout, hein, chercher le minerai. Hein.
Ah oui, donc les boyaux étaient très très.
Oui, bien sûr. Alors la mine, elle était un peu épargnée. C'est pour ça que les cités, il n'y a pas trop d'affaissement chez nous. Mais alors tout autour, il y en a. Hein, c'est. Alors ça, c'était les bureaux de la mine, là. Hein.
Ah oui, à droite, là, ce bâtiment en briques rouges.
Là, c'était les bureaux. Alors là, quand on envahissait les bureaux, c'était quelque chose. Occupation des bureaux, c'était ça. Nous, les femmes, on était là. Ici, il y avait la petite maison du concierge. Là,
donc là, il n'y a plus de grille, mais j'imagine qu'avant, il y avait une grille.
Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on se mettait main dans la main et personne passait là.
Ah oui, donc le piquet de grève.
De grève, c'était là, avec les femmes et les hommes. À 5h du matin, on venait là.
D'accord. Et donc la mine, le bâtiment, on le voit au bout là.
Oui,
et c'était l'entrée du puits.
Oui, plus haut, là c'était l'infirmerie de la mine. Oui, ils ont mis. Alors ça c'était l'infirmerie, on venait à la pesée des nourrissons là.
Ah oui.
Voilà.
La direction voulait surveiller.
L'élevage. Oui, voir si ça poussait bien. Ça. Bon, assistante sociale, la sage-femme, tout ça c'était aux ordres de la mine. Hein. Docteur de la mine et ainsi de suite. Oh, voilà de la bus. C'est parti, ça y est. Allez, hop. Allez, Geneviève, viens ici, va, tu seras avec nous. Antoine.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Mermet, c'est ça?
Presque.
C'est comme ça, j'ai mon oreille qui est dans la bonne direction. Vous cherchez ma canne.
Donc là, vous avez mis votre badge du coup CGT. Là,
oui, CGT, c'est parti aussi.
Ouais. Allez, la Geneviève.
De toute façon, il n'y a rien qui nous tombe du ciel. Hein.
Ah, oui.
Y a rien si on n'avait pas fait ces luttes, on n'existerait même plus. Chez nous, la mine, ça fait plus de 40 ans qu'elle est fermée. Et à force de manifester, de réclamer, on a toujours notre sécurité sociale minière qui est en place. Elle est en train de se déglinguer en ce moment, mais elle est toujours là. On va essayer de la maintenir le plus longtemps possible, parce que c'est une sécurité sociale minière qui est complètement différente du régime général. Et moi, je dis toujours que le régime général, il devrait être comme le système minier. C'est beaucoup plus facile.
Donc l'idée, c'est le régime minier pour tout le monde, quoi.
Voilà. Ah ben nous, on préconiserait le régime minier pour tout le monde. Qu'on ne se dise pas que nous, on est un régime privilégié. Non.
parce qu'on s'est bagarré pour l'avoir. Mais que le régime général il soit comme le régime minier, ça serait vraiment épatant. On verrait pas comme en ce moment, certaines personnes qui sont malades, qui peuvent pas aller chez le médecin. Ils ne peuvent pas s'acheter des lunettes. Ils ne peuvent pas remplacer leurs dents parce que tout coûte extrêmement cher.
Voilà.
Et on voudrait que les pensions de réversion pour les veuves, qu'elles soient augmentées au moins à 75%.
Voilà.
Parce que là, on a que 54% de la pension du mari. Mais quand il faut chauffer la maison, qu'on soit à deux ou qu'on soit tout seul, c'est pareil. Et encore, il faut chauffer plus quand on est tout seul. On n'a plus le mari pour chauffer les pieds. Hein.
Non, mais c'est vrai.
Nous avons fait une enquête dans le secteur des mines de fer. Et il y a 70% de veuves qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Par exemple, moi j'ai pas la carrière complète. Mon mari, il est décédé à 49 ans. Eh ben, en tout et pour tout, ma pension, elle fait 400 euros plus la complémentaire, j'arrive à 580 euros par mois.
Ah oui, tout le monde tourne autour de ça.
Et j'ai 76 ans aujourd'hui. Et ça fait 40 ans que je milite à la CGT.
Il y a quelques petites minutes d'attention avant de descendre du bus. Pour vous dire qu'à la fin de la manifestation, on se donne rendez-vous pour 16h30 à l'endroit où vous allez descendre maintenant.
Devant la cage au lion.
Mais c'est pour nous rendre compte aujourd'hui pour la réforme du pouvoir d'achat et l'amélioration du système de la pension des réversions pour les conjoints survivants. Camarades, je vous remercie de votre présence et nous allons maintenant marcher dans les rues de Nancy.
Et on vient se battre dans la rue.
Alors nous y voilà les filles là. Hein.
Ça y est.
On est prêts là.
Voilà.
Dina, elle a mis la pancarte pour vivre dignement, pas de pension en dessous du SMIC.
Ouais,
200 euros de plus tout de suite.
Là.
Une exigence de Dina. Et que ça saute. Alors ça y est, hein. Le cortège la prend forme. Allô Nicole.
Oui.
Bonjour,
oui,
c'est Antoine.
Oui, j'ai compris. Oui.
Alors, la lutte continue, racontez-nous où on en est aujourd'hui, Nicole. Dites-moi, alors, vous avez obtenu quoi depuis? Alors, c'était en mai 2008 qu'on s'est vu.
Oh ben, on n'a rien obtenu parce que les médecins sont partis, les médecins de la mine. On a de moins en moins de remboursements. Les trajets qui étaient prévus pour les mineurs, bon ben, le Fillon nous les a enlevés le 31 décembre 2009.
Ah, c'est Fillon qui les a enlevés?
Ah ben oui, c'est sûr. Il a dit que de toute façon, on était comme les autres. Bon, il n'y a plus de trajets de remboursés. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Si une grand-mère a besoin d'être conduite dans un hôpital ou quelque chose, on a les enfants. Et si les enfants sont pas libres, ils n'ont qu'à prendre congé. Et puis alors, les médicaments sont de moins en moins remboursés. Hein. Et puis alors, ce qu'ils ont décidé aussi, vous vous rendez compte, que ça soit l'aide ménagère qui conduise les grand-mères à l'hôpital si elles ont besoin de quelque chose ou alors à la visite. Les aides ménagères qui se serviraient de leur voiture pour emmener les pauvres grand-mères à quelque part, alors qu'elles sont presque pas payées, hein, ces filles-là. Alors, vous savez, c'est quand même une honte, hein. Une honte. Et puis alors, les grand-mères, elles ont quand même l'angoisse de savoir si on doit entrer en maison de retraite, mais ça, tout le monde a ça dans la tête, hein. Qui c'est qui va payer, quoi? Si c'est les enfants, on voudrait pas être une charge pour les enfants. Vous avez vu les salaires des femmes de mineurs, elles n'ont pas grâce. Hein. On a aussi fait une enquête là maintenant. Il y a 190 réponses et il y en a 176 qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans les veuves de mineurs. Sur la région, hein, il n'y a pas que Valleroy. Dans la vallée, quoi, les mineurs, hein, les mineurs de fer. Quoi. C'est une enquête qui va nous servir quand même. Hein, je sais pas ce qu'on va en faire, si on va aller à la sous-préfecture, si on va aller... on verra bien, mais enfin, vous voyez que la lutte continue, quoi. Hein.
Alors, vous revendiquez quoi?
Ben, on revendique l'augmentation des retraites, et puis les soins gratuits, parce que les mineurs avaient les soins gratuits, c'était quand même une lutte des anciens, hein, de 1947, et on aimerait bien que ça continue, hein, parce que c'était promis, ça. C'était jusqu'à la fin de notre vie, on devait avoir... c'était comme ça, hein, vu la pénibilité du travail. C'était aussi pour les veuves. Bon, ben, maintenant, on est de la revue, hein, parce que, avec le gouvernement là, il n'y a rien à faire, hein.
Et vous pensez qu'à Valroy, il y a des habitants qui profitent du bouclier fiscal ou pas, qui ont justement ce privilège-là? Parce qu'il y a des privilèges, quand même, qui sont donnés par le gouvernement à certains.
Oh, ben, non, il n'y a pas de bouclier fiscal à Valroy. De toute façon, vous vous rendez compte, on est tous une population ouvrière, hein. Il n'y a pas de riches ici, hein. Ben, non. Ça, on est en colère, vous voyez. Parce que, non, avoir vécu tout ça et puis nous enlever tout, quand on voit les gosses, qu'est-ce qu'ils vont devenir et tout, non. On est en colère.
C'était un reportage d'Antoine Tchao. Merci à Xavier Frisson, Laurent Haas et aux Mookrakers, producteurs d'hymnes industriels en Lorraine. Ainsi, bien entendu, qu'à Nicole, Dina, Angeline et Christiane. Leur livre « Témoignages de femmes de mineurs de fer Valroy » a été publié par les éditions Fench Valley en novembre 2007. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Florent Layani et Julien Dumont, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37.
Tunella, un mot sur la sécurité dans les tunnels?
En cas d'incendie, je quitte mon véhicule et je rejoins les issues de secours.
Celles qui sont signalées en vert, c'est ça?
Oui, n'oubliez pas, c'est ce qui peut vous sauver la vie.
Tunnel d'Île-de-France, la sécurité gagne du terrain. Toute l'info en temps réel sur citadin.fr. Ceci est un message de la DIRIF, Direction des routes d'Île-de-France.
Bonjour à tous, c'est Miss Maf. Devant le nombre d'appels, je vous confirme qu'en ce moment, Maf offre bien une réduction pour la première cotisation santé égale à l'âge de l'assuré. À partir de 50 ans, moins 50 euros, 60 ans, 60 euros, etc. Et cela est valable pour les particuliers comme pour tous les professionnels. Parce que chez MAF, plus le temps passe, plus nous aimons nos clients. Voilà.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la MAF.
Offre valable jusqu'au 31 mai 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, sur coût selon opérateur. France 3 vous donne rendez-vous.
Mission spéciale pour Fred et Jamy. Explorer l'extraordinaire forêt équatoriale du Congo. Pour tout voir, pour tout connaître, le duo de C'est pas sorcier ne recule devant rien.
Je crois que j'ai piqué là.
Eh ben bonne chance, hein.
Fred et Jamy, en route pour la jungle, l'aventure commence ce soir à 20h35 sur France 3.
Dans quelques minutes, carrefour de l'Odéon, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Julie Gacon pour les informations.
Bonjour, demi-finale sous haute surveillance à Caen, à quelques heures de la rencontre PSG-Quevilly. Des milliers de supporters sont attendus pour assister au match entre un club de Ligue 1 et les petits poussés d'un club de CFA. On imagine lesquels seront les plus nombreux au stade de Caen, et c'est pour éviter tout débordement que 800 gendarmes et policiers ont été déployés à l'intérieur et aux alentours. 17 jeunes majeurs de la région parisienne ont été arrêtés ce matin dans un hôtel de l'agglomération cannaise. Le récit de Céline Loiseau de France Bleu Basse-Normandie.
Les faits se sont produits dans deux hôtels de Mondeville situés près du périphérique cannais. Des plaintes ont été déposées pour des dégradations sur les murs, les portes et des distributeurs de friandises. Les 17 hommes interpellés sont de jeunes majeurs et mineurs. Ils ont affirmé aux enquêteurs être dans la région pour y passer des vacances. Seulement l'un d'eux possède une carte de supporter du Paris Saint-Germain. La police suppose donc que ces jeunes parisiens avaient l'intention de se rendre au match de Coupe de France de ce soir, même si lors de leur interpellation, aucun d'eux n'avait de billet. Chose est sûre, les 17 jeunes ne regarderont pas le match tranquillement dans un bar ou chez eux. Leurs gardes à vue prendront fin plusieurs heures après le coup de sifflet final.
À Caen, Céline Loiseau, France Bleu Basse-Normandie pour France Inter.
Le mouvement à la SNCF reste stable. À son 8e jour, la direction enregistre 27% de grévistes chez les contrôleurs, 29% chez les conducteurs et 4% de l'ensemble des cheminots. Des chiffres à peine plus bas qu'hier, bien plus bas en revanche que ce qu'annonce la CGT, qui parle de 50 à 75% de grévistes dans plusieurs régions, Rouen, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Pour l'instant, aucun signe de reprise de dialogue entre la direction et la CGT cheminots. Ce n'est pas si souvent que le Quai d'Orsay, donc la France, prend une position aussi affirmée sur l'Église catholique. Après les déclarations lundi du numéro 2 du Vatican, le cardinal Berton, qu'il y ait pédophilie et homosexualité, Paris condamne un amalgame inacceptable. Elle est l'une des premières capitales à le faire. Par ailleurs, on apprend que l'Église catholique allemande perd des fidèles par milliers après la série de révélations d'abus sexuels. Rien qu'au mois de mars, deux diocèses de la région du très religieux sud-ouest a perdu plus de 5000 membres. La Chine débloque près de 30 millions de dollars pour venir en aide à la province du Xinhai, touchée par un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a tué au moins 400 personnes et fait plus de 10 000 blessés dans cette région montagneuse aux confins du Tibet. Après 4 jours de deuil, une brèche est ouverte dans l'unité nationale qui s'était faite en Pologne autour de la mort de Lech Kaczynski. Le président défunt doit être enterré dimanche au Wawel, à Cracovie, ce château où furent couronnés et enterrés tous les rois de Pologne. Cette panthéonisation express n'est pas du goût de tout le monde. Le cinéaste Andrzej Wajda, l'auteur du film Katyn, appelle dans une lettre ouverte à retirer cette décision prise à la hâte, dit-il. Des dizaines de milliers d'internautes ont souscrit à son appel et à d'autres, considérant comme déplacé le fait que Lech Kaczynski puisse se trouver aux côtés notamment de Joseph Piłsudski, père de l'indépendance polonaise.
Service public, Isabelle Giordano.
C'est l'objet de toutes les spéculations. Gros plan demain dans Service public sur l'un des aliments les plus consommés au monde, le riz. Le riz va-t-il devenir bientôt un produit de luxe? J'attends vos questions et vos réactions sur franceinter.com.
Service public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi, à 10h.
France Inter présente Gotham Project. En concert à l'Olympia, le 17 mai. Retrouvez Gotham Project et leur nouveau titre dans le programme musical de France Inter. France Inter.
La différence.
À 16h04 sur France Inter, on se retrouve au carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Et bonjour Julie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Il s'en passe en région en ce moment avec ce printemps qui est bien présent. La musique fleurit. Hier, par exemple, se terminait la semaine épicurienne de Dax. Alors, de la musique à la cathédrale, il y en avait déjà eu un peu partout, dans les rues, sous la halle. Et puis aussi de beaux repas, bien sûr. Épicure, philosophe qui disait que la vie était une suite de hasards, donc il fallait profiter de chaque instant. C'était un sage tout à fait vénérable. Certainement, donc, une belle ambiance de solides gaillards, des femmes avenantes, gentilles comme tout. Dax, bravo, c'est formidable, quel formidable élan. Et puis, Vincent Cope, qui est le directeur du conservatoire, corniste, superbe aussi, qui s'occupe de plein de choses, qui fait... Voilà, ça c'est fini, mais il y a plein d'autres manifestations. Par exemple, dans le Boulonnais, il y a les fameux violons de la paix, ça commence le 16, c'est vendredi, et c'est un moment où le violon est très présent, mais aussi toutes sortes de musiques. Mais il n'y a pas que le violon classique, il y a aussi du jazz, il y a du violon plus tzigane, il y a aussi des pièces de musique de cinéma, et puis il y aura un film sur Yehudi Menuhin, toujours très présent dans la mémoire des violonistes et des amoureux de cet instrument. Donc il y aura un film magnifique de Bruno Mont-Saint-Jean, et puis une conférence avec le réalisateur, ce sera le vendredi 16 avril. Bref, le violon sous toutes ses formes, et voici un magnifique jeune artiste, moi je le trouve, c'est une sorte de Paganini d'aujourd'hui, il s'appelle Nemanja Radulović, avec ses cheveux tellement longs qu'on a toujours peur qu'il se prenne les doigts dans les cheveux et les cordes à la fois, mais ça n'est jamais le cas, rassurons-nous. Donc il va jouer dans ce festival des violons de la paix en Boulonnais, ce sera dimanche 18 avril à Condette, et à 11h, attention, et le voici avec son ensemble dans Souvenir d'un lieu cher de Tchaïkovski, Scherzo.